a commencé. L'émission a commencé.
Debout.
Énorme. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances?
Le football, il a changé.
Et bienvenue sur Radio Campus Tour. Nous sommes le vendredi 16 décembre, il est 7h15 et c'est parti pour la matinale des étudiants de l'EPJT. Une matinale de nouveau en effectif réduit puisque l'on est toujours en pleine session d'enquête. Troisième et ultime semaine et on retrouvera toute l'équipe en forme bien sûr quand elle se sera un peu reposée pendant des vacances bien méritées. Et les sacrifiés du jour sont Zachary, fidèle au poste, qui justement a fait le reporter chez les reporters et vous montrera les dessous de l'enquête par les étudiants de l'EPJT. Une idée originale de Clara pour vous montrer ce qui se passe en fait dans la vie des écoles de journalisme. Jeanne nous parlera du Parlement européen et du fameux Qatargate qui s'y déroule en ce moment. Quant à moi, et c'est mon cadeau de Noël avant les vacances, j'ai du temps pour parler au micro, mais alors tout mon temps. Et c'est un rêve de moulin à parole qui se réalise et je vous réserve une petite anachronique sur la Lune en fin d'émission. Avant que Jeanne ne revienne conclure celle-ci avec le journal des sports. Tout le monde est prêt, accrochez vos ceintures et décollage immédiat, mais en douceur, avec Snow Garden de Rhoda et Dylan Witherow.
Salut Laura. Oui, cette semaine, j'ai décidé d'aller enregistrer quelques camarades nous parler du travail qu'on a eu à faire en ce mois de décembre à l'EPJT. Donc en effet, nous les M1, les premières années dont nous faisons partie, on a eu 3 semaines pour réaliser de A à Z une enquête, journalistique. Petit topo de Thomas, notre délégué.
Ça fait quelques semaines où on a été libéré quand même de pas mal de cours pour être consacré quasiment à 100% à une enquête. C'est entre guillemets la phase terminale d'un cours qui s'appelait genre journalistique qu'on a eu en début d'année. Et il faut donc sur 3-4 semaines on va dire, faire des recherches et rédiger à la fin une enquête soit en binôme soit en trinôme.
Voilà, donc chacun en petit groupe, on a dû se décider sur un sujet et faire les démarches pour commencer à récupérer des infos dessus. Histoire de vous donner une idée, petit échantillon de quelques thématiques.
Le business dans la protection de l'enfance.
Qui décide de nos programmes scolaires?
Logements sociaux ruraux, les grands oubliés.
Les soldats du feu abandonnés à leurs démons.
Les musulmans au pied du mur.
La régulation des pratiques pornographiques en France.
Le tatouage et le droit d'auteur.
La radicalisation des militants écologistes.
L'application des lois contre le gaspillage alimentaire par les grandes surfaces.
C'est hyper factuel, hein. C'est quoi le titre? L'application
de quoi? Bon, on appelle des gens, on envoie des mails, on demande des rendez-vous. C'était plutôt galère suivant les groupes, mais ça nous fait pour certains l'une de nos premières grosses expériences dans le journalisme. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Arnaud?
On travaille avec Aya et Lune sur les dispositifs anti-SDF.
et sur l'hypocrisie des mairies et des collectivités locales en ce sens. Non, on a déniché pas mal d'informations. Bon, évidemment, ce n'est pas le scoop du siècle, mais quand même des informations assez importantes qu'on a pu démontrer et analyser. Et on va rendre un travail assez abouti, donc on est plutôt content.
Camélia aussi, de son côté, elle est plutôt satisfaite, notamment pour avoir testé le multimédia.
C'était super intéressant aussi. On est monté à Paris, on a pris de super belles images pour faire un super petit film, un super petit reportage.
Donc Camélia, Tom et moi-même avons pu aller faire un saut à Paris mercredi de la semaine précédente pour faire une interview, des photos, mais aussi du son et de la vidéo auprès d'un tatoueur très connu. Donc on était super contents. Après, chaque chose en son temps, on va pouvoir faire une version de notre enquête en ligne avec du multimédia. Mais bon, d'abord, on va faire une version papier. Tom nous en parle un peu plus en détail.
Dans le cadre de notre travail d'enquête qui dure depuis 3 semaines, on va avoir un portage de notre article à un format magazine, à un format papier. Pour construire ce format papier, on a eu plusieurs réunions et plusieurs décisions à prendre sur la maquette, la disposition du texte, du titre, du chapeau, des photos, etc. Dans le cadre de l'exercice, on avait le choix entre 3 maquettes issues de 3 magazines très connus, Society, le Nouvel Observateur, Nouvel Obs, et M, le magazine du Monde. Donc personnellement, par exemple, mon groupe, on a choisi la maquette du Monde et on a eu une réunion avec une superviseure, Laure Coleman, avec qui on a débattu, on a donner nos envies, elle a dit si c'était réalisable ou pas, pour qu'ensuite on ait une maquette qui soit en accord avec le sujet de notre enquête et pour que nous, on n'ait pas à nous restreindre sur l'écriture, le choix des photos, etc.
Bon, tout ça, c'est super, hein, mais on a 3 semaines de boulot dans les pattes. C'est pas un métier manuel, mais on reste des élèves de master. C'est quand même assez dur, la vie. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochains jours ?
Alors là, déjà, après avoir rendu une V1 puis une V2 en fin de semaine, on va être en vacances déjà, on va un peu souffler pour Noël. Et à la rentrée, on va avoir une grande phase de correction, donc de secrétariat de rédaction, de SR, avec aussi à la fin plus ou moins une V3 aboutie, et puis aussi notamment toute la mise en page de l'enquête à l'écrit, parce que c'est un format magazine, donc il faut aussi réfléchir à l'illustration, à la photo, à la mise en page, etc., etc., ouais.
Petit indice de satisfaction, Thomas et Arnaud, c'était la première fois que vous en faisiez une d'enquête ?
Jamais, c'est ma première fois et ça me plaît beaucoup. Titre.
Tout à fait, première fois. Non, pareil, j'ai beaucoup aimé surtout le côté un peu ministre où tous les jours tu es à droite, à gauche, tu as 10 000 appels, 10 000 rendez-vous. C'était très sympa, très épuisant. Mais, et puis les mails, on en parlera, mais on nous envoie toujours des mails, on redirige vers des boîtes mails et les gens ne répondent pas. Mais bon, c'est quand même sympa.
Merci à vous deux et bravo aussi à mes confrères et consœurs Camélia et Tom. On a formé un trio de choc, ainsi qu'à toute la promo pour ces premières productions journalistiques. Oui, je ne vous cache pas, ça fait un peu narcissique de faire un reportage sur nous-mêmes, mais bon, c'est un peu pour retranscrire l'ambiance d'un master journalisme pour les 2-3 curieux qui éventuellement seraient intéressés. Pour plus d'infos, contactez-nous sur notre compte Twitter ou par mail. N'hésitez pas à demander des infos en tout cas. Et surtout, joyeux Noël !
Merci Zach, joyeux Noël à toi aussi, même si on remarque que Jeanne et moi n'avons pas été interrogés pour l'enquête, donc je défends les D3E, voilà pour ceux que ça intéresse, les déchets d'équipement électrique et électronique. Bref, on s'écoute tout de suite All I Want For Christmas Is You, mais de Chili Gonzalez, parce qu'on est un peu disruptif ici.
Thank you.
7h25 sur Radio Campus Tours. On vient d'entendre All I Want for Christmas Is You, une version au piano de Chilly Gonzalez. Et c'est y part pour le flash. Donc voici un point sur l'actualité. Elisabeth Borne a une nouvelle fois eu recours au 49-3 hier jeudi à propos du projet de loi de finances 2023. Le Sénat avait d'abord rejeté le texte dénonçant une journée de dupes. Sans surprise, la Première ministre a donc engagé la responsabilité du gouvernement pour faire adopter une fois pour toutes son projet de loi finances. Sans surprise à nouveau, la France insoumise a annoncé le dépôt d'une motion de censure au nom du groupe NUP. Si vous voulez en savoir plus sur ces procédés législatifs, je vous invite à aller regarder la fiche d'actu réalisée par Kelvin Ginlac et moi-même sur l'un des sites de l'EPJT rattrapage au pluriel-actu. .pjt.fr. Mercredi soir, la SNCF s'annonçait optimiste quant aux grèves annoncées pour ce premier week-end des vacances de Noël, avec de faibles perturbations sur l'ensemble du réseau. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a promis sur France Inter que l'essentiel du trafic serait assuré. Les revendications des différents préavis de grève déposés concernent principalement les salaires. Sur l'antenne voisine de France Info, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a lui imputé la responsabilité sur le gouvernement et la réforme promise des retraites. Personne ne pourra dire on ne nous a pas prévenus, a-t-il conclu. Même programme et beaucoup plus intense au Royaume-Uni, les infirmières britanniques se mettent en grève. Comme elles l'avaient annoncé il y a 2 semaines, leurs revendications concernent les salaires durement touchés par une forte inflation outre-Manche et un système de santé publique en crise. C'est la première fois en 106 ans d'existence pour leur syndicat qu'un tel mouvement a lieu. Il concerne 100 000 d'entre elles. Elles ne sont pas les seules au Royaume-Uni, cheminots, postiers, police aux frontières, un mouvement général touche le pays à l'approche des fêtes. Il fait 0 tout pile sur Tours ce matin pour un ressenti à moins 4. Le soleil se lèvera à 8h38 pour nous réchauffer légèrement puisqu'il fera jusqu'à 7 degrés. Youpi, cet après-midi. Peau sensible de sortie, indice UV à 0, donc on est tranquille de ce côté-là. Olena Zelenska, la première dame ukrainienne, est en visite en France cette semaine. Elle a notamment été reçue par Brigitte Macron à l'Elysée lundi, puis par Emmanuel Macron pour la conférence internationale en soutien à l'Ukraine mardi. Il est ici présent son mari, le président Volodymyr Zelensky, par visioconférence, comme à son habitude. En effet, il ne quitte plus son pays depuis le début de la guerre le 24 février dernier. Cette conférence lui a permis de récolter 1 milliard de dollars de fonds d'aide à la population ukrainienne et de dénoncer la situation sur place. Dans la même optique, elle s'était déjà rendue à Londres il y a 2 semaines. L'état d'urgence a été déclaré sur tout le territoire péruvien mercredi 14 décembre en réponse aux manifestations qui secouent le pays depuis dimanche. Celles-ci ont fait 7 morts. Cette mesure, qui devrait durer 30 jours, comprend la suspension de circuler et de réunion, ainsi qu'un éventuel couvre-feu, selon Alberto Otarola, le ministre de la Défense. Les manifestations ont éclaté en faveur de la libération de l'ancien chef de l'État, Pedro Castillo, destitué par le Parlement pour incapacité morale et emprisonné pour 18 mois, a-t-on appris cette nuit. Les manifestants réclament également la démission de la nouvelle présidente Dina Boluarte, pourtant issue du même parti radical de gauche. En parallèle à l'état d'urgence, celle-ci a promis une nouvelle fois d'avancer les prochaines élections présidentielles, si possible à décembre 2023. L'actu de cette semaine, c'est bien sûr le Qatargate, mais ça, c'est Jeanne qui va s'occuper de vous le résumer dans un tout petit instant. Et comme d'habitude, pour de plus amples informations, n'hésitez pas à checker les rattrapages de l'actu, préparés avec soin par nos camarades de promo à l'EPJT, rattrapage au pluriel-actu.epjt.fr. Et avant d'accueillir Jeanne, on écoute Return of the Trees de Delinquent Habits.
Botellas empty, first 10 rows anointed. The fiesta's popping and all fingers pointed. Ariad bottles got the whole crowd jointed. Checking what eyes can't be sweating, oh why? Can't be living word fly, keep the gleam in your eye. Con mucho drum roll on time, let the horn blow. Gas to the pedal like metal at a corn show. The rhyme rocker with a shitload of flack. I grab the mic and freak the rhythm till there's no more bala. Stormy palabra, pero booze and ha-ha. Attitudes all who go sissy la la. So do the cha-cha, who can call me papa. What okay for action, hunt until mañana. Down for hi-hat crash and whiplash. City night, bright light and herb stash. ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, gabacho moreno, penetra tu barrio. Lacing you but rollas, they don't rock back frente. Brr, that's again, esto pa' la gente.
like chanclazos, deep like fregadazos. Still got the coke and rum and flex the brazos. Then I hit you from a different angle. Lake sweep, cheap shot, bird shit, straight cop. Soy el twin, pistolero, guerrero, don't be afraid of that. A matter of fact, I got like 10,000 maniacs in the crowd on a very good night. But keep it hype for a fraction of that, to get the fatty like that. Tronica en el aire, todos quieren baile. Plus my sick Latin style, dale. Trouble as they come, I can feel the drum. Don't know the words, but you can hum. Será, será cuando lo venga.
Get your eyes burned, head turned, pupils tight, back stiff, and your neck hurt. And then you exert, check the vibe. Who got more freaky than I survived, dodging who die, trying to shoot I. So I wave, I smooth, creep, and crawl. Take out another batch, let it thaw, and lay sure. Won't take fall, this here is when to take all. Trick, take a flick of the click, here to face y'all.
C'était Rotten of the Trees, The Delinquent Habits. Salut Jeanne, tu viens nous faire un topo sur l'actu européenne et comment ne pas évoquer le Quatergate.
Et oui, ça bouge à Bruxelles. Vendredi dernier, vendredi 9 décembre, le parquet belge a confirmé le déroulement d'une enquête sur des faits présumés d'organisation criminelle, de corruption et de blanchiment d'argent de la part du Qatar envers le Parlement européen. Sans nommer directement l'Émirat, personne ne doute de l'implication du pays dans l'affaire. Ce pays du Golfe est accusé de tenter d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen et le pays aurait versé d'importantes sommes d'argent ou offert des cadeaux importants à des tiers ayant une position politique significative au sein de l'institution européenne et c'est chose faite.
Qui est concerné ?
Au cœur de l'enquête, Eva Kaili, la vice-présidente du Parlement européen, a eu son domicile perquisitionné lundi 12 décembre. Les enquêteurs ne sont pas trompés de cible, bien au contraire, ils ont touché dans le mille. Des sacs de billets de banque ont été retrouvés dans son appartement et son père a été pris en flagrant délit en possession d'une valise de billets dans un quartier de Bruxelles. Ses avoirs ont été également gelés par l'autorité grecque de lutte contre le blanchiment d'argent. L'histoire de cette citoyenne grecque de 44 ans ressemble définitivement à un scénario de film de corruption. Et pourtant, tout ça est bien réel et dans l'une des institutions les plus importantes du monde.
Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Donc l'affaire, qui a depuis été nommée Qatargate, a non seulement bousculé le groupe des socialistes et des démocrates dont Eva Kaili faisait partie, mais elle secoue aussi la démocratie européenne de plein fouet. Comme par hasard, Eva Kaili faisait partie de la délégation chargée de développer les relations de l'Union européenne avec la péninsule arabique. Lors des débats sur la boycott de la Coupe du monde de football, elle avait eu des propos élogieux au sujet de l'Émirat, alors que le Qatar était sous le feu des critiques pour son non-respect des droits de l'homme et plus encore. Elle avait déclaré « Aujourd'hui, la Coupe du monde de football au Qatar est une preuve concrète de la façon dont la diplomatie sportive peut aboutir à une transformation historique d'un pays dont les réformes ont inspiré le monde arabe », avait-elle déclaré à la tribune du Parlement européen le 22 novembre.
Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, depuis vendredi, les officiels de Bruxelles ont eu le temps de formuler des réponses. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a annoncé hier des réformes d'ampleur pour 2023 à la suite du scandale, et elle a commencé par affirmer que la démocratie européenne était durement attaquée. Puis, elle a continué son discours en déclarant « Je suis en train de mettre au point un paquet de réformes d'ampleur qui sera prêt au début de l'année prochaine », a-t-elle déclaré lors d'un sommet européen à Bruxelles. Roberta Metsola a mentionné en particulier le renforcement de la protection des lanceurs d'alerte et l'interdiction des groupes d'amitié non officiels avec des pays tiers. Toujours est-il que le Qatargate a secoué la famille européenne de Bruxelles. L'ONG Transparency International exhorte pour sa part les institutions européennes à prendre des mesures urgentes pour entreprendre une réforme en profondeur de leur système d'éthique et d'intégrité. Donc un travail dans le fond et dans la forme pour l'Union européenne qui sera à suivre.
Merci Jeanne pour cette chronique. Il est 7h36 sur Radio Campus Tour. On poursuit en musique avec Change For Me du groupe Bass Trax.
Always saying something, always saying something. Keep it on a hundred. Always saying something. It's a lot of nothing, it's a lot of nothing. Everyone around me thinks I'm up and coming. How they really coming? I'ma keep it going. I don't got instructions. End of the discussion. Damn right, hope and make him stand right. Hope and make him get light. Outright, I'ma say it outright. Only in the moonlight. Fast lane, trying to find a last way. Driving by my past pain. Last train, if I catch a last train, I'ma beat the road way. Suck. Maybe I'm doing too much. Oh, could have been luck, but maybe I ain't doing enough. It's so safe to stay in season. This time flies, so do my reasons to change for me. Always in my feelings, always in your feelings. Do we really hate it? Sick of all the preaching, like your friends of Jesus, but have you really seen it? Everyone around me thinks I found my calling. Are they really watching? I'ma hit the ceiling, been staring at the ceiling. Think about it. Cocaine, just another slow day. Finna walk at my pace. I pray I won't take the highway. I'ma take the long way. Laid back, we could take it way back. I could give it up like that Marvin Gaye track.
Like Marvin.
Who believed that? Baby, best believe that. Yeah. Maybe I'm doing too much. No. Could have been luck, but maybe I ain't doing it now. It's so safe to stay in season. It's time flies, so do my reason to change for me. Maybe I'm stuck, maybe I'm doing too much. Could have been luck, but maybe. Maybe I'm doing too much, yeah. Could have been luck, but maybe I ain't doing it now. It's so safe to stay in season. As time flies, so do my reasons to change for me.
Change for me, yeah, for yeah. I'm ready.
Il est 7h40 et c'était Change for Me de Bass Tracks. Dernière chronique avant les vacances et on va parler de la Lune. C'est bien ça, Laura ?
Eh oui, petit cadeau de Noël de moi à moi, je vais vous parler d'espace.
Splashing down back onto Earth. NASA's Artemis 1 moonship successfully landed in the Pacific Ocean, ending a 25-day test flight to the moon and back.
Parce que la capsule Orion de la mission NASA-tienne, j'invente des mots, Artemis est de retour sur Terre. Il a améri le dimanche 11 décembre au large de l'île de Guadalupe au Mexique. Le module avait été lancé le 16 novembre. Il a donc passé 25 jours dans l'espace. Il s'agissait d'un vol test sans astronaute à bord.
Et du coup, c'était quoi le but de la mission déjà ?
En substance, de préparer le retour de l'humanité vers la Lune. En fait, la NASA a pour but de mettre en place un avant-poste lunaire qui servirait à la fois de point de ravitaillement, mais aussi de laboratoire. Tout ça dans l'objectif de faciliter ses futures missions vers Mars. Il faut rappeler aussi que cette mission intervient dans un contexte où les États-Unis et la Chine se livrent une véritable course à l'espace. Sans crier à la guerre froide, évidemment, on pense tout de suite à la rivalité russo-américaine qui avait en partie motivé la première.
Une piqûre de rappel alors ?
Eh oui, laissez-moi vous conter la douce histoire de la conquête lunaire. Et on commence en 1959. C'est avec le très original nom de Luna que les Soviétiques lancèrent un programme spatial de sonde à destination du satellite. C'est notamment à ce programme et à la sonde spatiale Luna 3 que l'on doit les premières photos de la fameuse face cachée de la Lune. Les Américains, de leur côté, galèrent avec leur programme Pioneer, qui n'est pas à proprement parler un franc succès. Et encore, ça, c'était avant le coup de grâce.
Le coup de grâce.
En 1961, deux hommes sont envoyés dans l'espace. Un exploit en soi. Problème, le russe Yuri Gagarin côtoie les étoiles un mois avant l'américain Alan Shepard. Et ça la fout mal. Le 25 mai 1961, le président John Fitzgerald Kennedy fait donc une annonce. Les Américains marcheront sur la Lune avant la fin de la décennie.
Et alors, pari tenu ?
Eh oui, la même année démarre le programme Apollo. Tout un tas de missions sont lancées dans l'espace par la NASA. Vol habité, sonde pour prendre des photos, simulation de situations d'alunissage, etc. En bref, on prépare le terrain, un peu ce qui se passe en ce moment avec Mars. Et enfin, au bout du compte, le 21 juillet 1969...
Et je descends de l'échelle maintenant, dit Armstrong.
Le fameux petit pas pour l'homme mais pas de géant pour l'humanité, signé Neil Armstrong. On salue au passage le reste de l'équipage moins connu mais tout aussi présent, Buzz Aldrin qui a donné son nom au personnage de Toy Story et Michael Collins. Cet épisode marque évidemment le succès américain dans la conquête de l'espace. Depuis, que ce soit vers la Lune ou vers Mars, c'est principalement la NASA qui franchit petit à petit toutes les étapes. Encore que, en 2013, le module chinois Chang'e 4 se pose sur la Lune. Il sera suivi par d'autres. Le début d'une nouvelle rivalité qui pousse toujours plus les Américains vers les exploits spatiaux. La NASA a ainsi prévu d'envoyer un ou une prochaine astronaute sur la Lune en 2024.
Et on reste la tête dans les étoiles avec Starman de David Bowie. Yeah.
you'll get us locked up and fine. There's a star.
Il est 7h48 sur Radio Campus Tour 99.5 FM et c'est l'heure du journal des sports. Sur la planète foot, vous n'avez pas dû passer à côté de la victoire française face au Maroc 2-0. Mercredi soir, les Bleus n'ont pas joué leur meilleur football mais ont déniché leur ticket pour la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Et si vous étiez de la partie, il ne fallait tout de même pas tarder pour se mettre devant son poste de télé. Théo Hernandez a ouvert le score à la 5e minute de jeu. Le second but de la rencontre a été uniquement inscrit par Randall Kolo Muani quelques secondes après son entrée, mais uniquement en deuxième période sur le terrain et sur une passe de Kylian Mbappé. Sans but, mais présent partout sur le terrain, tant offensivement que défensivement, Antoine Griezmann a été élu homme du match. Et rendez-vous dimanche à 16h contre l'Argentine de Lionel Messi pour une 3e étoile. TF1, le principal diffuseur du mondial en France, a réalisé son meilleur score de l'année avec une part d'audience de 64,4% et un pic de 23 millions de téléspectateurs à 21h53 après avoir déjà battu son record lors des quarts de finale contre l'Angleterre, 2-1 avec 17 millions de spectateurs. Tout confondu, c'était la meilleure audience depuis 2016, tout programme et chaîne confondu. Et pour en finir avec le ballon rond, le sélectionneur de l'équipe du Portugal, Fernando Santos, a quitté son poste sur décision de sa fédération portugaise de football hier, jeudi 15 décembre. Le Portugal n'a pas passé l'étape des quarts de finale arrêtée par le Maroc. Et selon le quotidien sportif Record, le fameux José Mourinho serait la piste prioritaire de la fédération. Le Comité international olympique, le CIO, a décidé de repousser l'annonce de la ville organisatrice des Jeux olympiques d'hiver 2030. Lors d'une conférence de presse le jeudi 6 décembre, l'organisation a exprimé des inquiétudes sur l'impact climatique des prochaines organisations. Après le fiasco écologique des JO d'hiver de Pékin de 2022, qu'on se souvient en début d'année, le CIO souhaite donner lieu à des discussions plus approfondies sur la durabilité des sports d'hiver avant l'attribution des villes hôtes. Ainsi, les membres de la commission s'accordent 13 mois de plus pour choisir la ville de 2030. Les villes en concurrence sont Salt Lake City aux États-Unis, Vancouver au Canada et Sapporo au Japon. Et la nouvelle intervient alors que la station de ski du Grand Bornand en France a fait appel à de la neige artificielle, faute de vraie neige, pour préparer la piste des skieurs lors de la Coupe du Monde de biathlon du 15 au 18 décembre.
La première épreuve de la compétition a donc commencé hier par le 10 km masculin et le Norvégien Johannes Bo a terminé loin devant en 22 minutes et 52 secondes. Les deux premiers Français au classement sont Fabien Claude et Quentin Fillon-Maillet, respectivement à la 7e et à la 8e place. Et aujourd'hui, il y a lieu le 7,5 km féminin, donc allez les filles.
Je ne crois pas si bien dire, Jeanne. Allez les filles, pas les tocs, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Il est 7h51 sur Radio Campus Tours. Et voilà, c'est la fin, la toute dernière émission de l'année 2022, mesdames, messieurs et autres genres. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci aussi à mes deux acolytes courageux qui se sont levés en ce doux vendredi 16 décembre. Zachary, notre couteau suisse, notre jukebox, notre vedette finalement, présent ce matin comme à son habitude. Et Jeanne, notre globe-trotteuse, notre sportive et technicienne de talent, ce matin également dans les studios avec nous. Merci beaucoup à vous deux. Il est 7h53 sur Radio Campus Tours. Bonne journée, bon week-end, bonnes vacances et à l'année prochaine.